Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne tout de suite avec Ravelli Lemel. Bonsoir Ravelli Lemel, Shabbat Shalom.
Bonjour et Shabbat Shalom.
Ravelli Lemel, on poursuit comme chaque semaine l'étude de notre paracha, ce passage qu'on lit dans nos communautés chaque semaine. Et on arrive à Tazria Metzora. Et ça, c'est vraiment la paracha de ce qu'on appelle en hébreu le Lashon Hara, c'est-à-dire c'est la paracha de la médisance, parler mal des autres, même la calomnie. Et voilà, c'est la paracha sur ce sujet-là. Il faut quand même dire une chose très honnête, c'est que c'est le péché le plus partagé du monde, et je parle de moi. On voit pas trop comment éviter de tomber dans ce travers, et justement, c'est là-dessus que vous voulez intervenir. Vous voulez nous dire, d'ailleurs on va entendre ça tout de suite. Comment faire pour ne pas se mettre dans cette situation où finalement on en arrive tous à dire bon bah c'est inévitable. Qu'est-ce qu'on doit travailler sur nous avant, en amont, pour faire en sorte de ne pas tomber dans ce travers-là?
Oui, en effet, Bernard, vous avez totalement raison. Cette problématique de la médisance, dont tout le monde parle d'ailleurs, il y a tellement de choses à dire paradoxalement sur cela. Au fond, comment est-ce qu'on peut réussir à ne pas se retrouver à l'intérieur de cela? Comment est-ce qu'on peut faire en telle sorte qu'il ne nous vienne même pas à l'idée le fait de dire du Lashon Hara? Alors, évidemment, il y a tout d'abord le savoir que l'on a de l'interdiction, mais c'est peut-être utile, mais souvent c'est pas suffisant. Et puis il va y avoir aussi, bien sûr, aussi des techniques que l'on peut utiliser. Par exemple, si on disait sur moi ce que je suis en train de dire sur l'autre, est-ce que ça m'aurait plu? Non. Alors dans ce cas-là, pourquoi je le dis? C'est vrai. Mais au-delà de ça, il y a peut-être, j'ai envie de dire, un travail intérieur à faire pour ne pas nous retrouver à l'intérieur de cela. En premier lieu, j'aimerais citer un enseignement que j'ai entendu d'ailleurs d'un maître qui s'appelle Rav Asher Weiss et qui éclairait un texte très intéressant de la Gemara. La Gemara nous rapporte l'histoire donc d'un rochel, c'est-à-dire d'un colporteur qui se promenait dans la ville de Tsipori. Et c'est intéressant, on va voir pourquoi. Et ce colporteur qui allait dans la ville de Tsipori disait « Quel est l'homme qui désire la vie ?» Et un maître, je crois que c'est Rabbi Yanaï, à ce moment-là lui dit « Mais moi je veux le savoir » et il va le rejoindre et ce colporteur lui cite ce fameux verset « Mi ha'ish echafetz chaim » « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la vie, pardonnez-moi, ohev yamim lirot tov, qui aime les jours et qui veut voir du bien, netzor leshon chamera usfatech hamidaber mirma, écarte ta bouche de dire toutes sortes de choses mensongères et de, en fin de compte, de ne pas dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire et entre autres le lashon hara. » Et il continue, Sourmera va à Setov, écarte-toi du bien et fais le bien, Bakesh Shalom, recherche la paix, Verot Fehu et poursuis-la. Et ce maître à ce moment-là dit, waouh, extraordinaire, combien de fois j'ai lu ce verset et je n'avais pas vu cet enseignement et maintenant tu me le donnes. Et la question qu'on peut poser, elle est évidente. Quoi, il ne connaissait pas le verset? Et le verset, il est compréhensible. Quand le texte vous dit, quel est l'homme qui désire la vie, qu'il fasse attention à sa langue, bon, ben c'est clair. En vérité, et c'est ça cette explication que j'ai entendue de ce maître et que je trouve merveilleuse, il dit, au fond, le problème c'est quoi? C'est que on a pris l'habitude de nous focaliser en premier lieu sur les éléments de dysfonctionnement des autres. Vous savez un petit peu cette image dans laquelle vous prenez une grande feuille blanche, vous faites à l'intérieur de cette feuille un point noir, vous montrez la feuille aux gens. Eh bien la plupart du temps, ils vous diront que ce qu'ils voient, c'est le point noir. Alors qu'en vérité, il est minuscule par rapport à une feuille blanche. Eh bien, malheureusement, nous avons toutes et tous tendance à fonctionner de cette manière, c'est-à-dire de ne pas vouloir mettre en exergue ce qui se passe de beau et de bien chez l'autre. Et donc, malheureusement, parce que nous ne sommes pas dans cette recherche, cette poursuite de ce qui va bien chez l'autre, nous ne sommes pas dans ce désir d'identifier en premier lieu les éléments positifs, eh bien, nous avons tendance, malheureusement, à voir en premier lieu évidemment ce point noir et d'en parler par la suite. Mais J'aimerais rajouter quelque chose et aller un tout petit peu plus loin. Au passage, c'est ce que ce maître disait. J'ai toujours lu ce verset, mais je lisais en fond la première partie en oubliant la seconde. Et là, ce colporteur me rappelle cela. Au passage, un colporteur, c'est celui qui transporte les choses d'un endroit à l'autre. Tsipori vient de la racine tsipor, un oiseau. Et il y a ici une allusion, justement, à quelqu'un qui était là et qui allait d'un lieu à l'autre et à l'image d'un oiseau qui pépit sans arrêt. Mais sans doute, les mots qu'il prononçait étaient toujours des mots de paix, d'harmonie et de gentillesse. Mais si on a envie d'aller un tout petit peu plus loin et de faire en telle sorte que l'idée même de dire du Lashon Hara n'existe pas chez nous, eh bien, c'est très simple. Regardez. Si demain, on nous dit que notre meilleur ami, malheureusement, s'est mis à aller à la cocaïne, eh bien, et ne nous viendrait même pas à l'idée de commencer à en parler à tout le monde, évidemment. Pourquoi ? Parce que nous l'aimons, c'est un proche. Et donc, la première idée que nous aurons, c'est comment est-ce que nous allons pouvoir faire pour l'aider à s'en sortir ? Après, évidemment, il faudra réfléchir aux bonnes stratégies. Mais ça sera cela qui va nous agiter en premier lieu. Et on peut donc, et c'est une idée que Ravolbe développe, se dire que la meilleure manière de ne pas se retrouver à faire du Lashon Hara, à ne même pas avoir envie d'en dire, c'est de développer avant tout ce que l'on appelle la dimension du chesed, la dimension du don, la dimension de l'altérité, le désir de donner à l'autre, de chercher en permanence ce qui va chez lui, mais surtout de lui apporter. Et donc à partir de cela, eh bien ça crée chez nous un état d'esprit. Lorsque l'on voit quelqu'un qui fait une erreur, lorsque l'on voit quelqu'un qui fait une faute, la première idée qui va traverser notre esprit sera la suivante. Comment puis-je l'aider ? Er ani yachol la'azorlo. De quelle manière je vais pouvoir l'aider ? Parfois, on ne pourra pas l'aider, mais on pourra prier pour lui. On pourra trouver quelque chose qui lui permettra à un moment de sortir de son dysfonctionnement, de s'en arracher, de se transformer et de faire en telle sorte que, eh bien, il puisse changer. Nous savons très bien qu'en tirant la personne par le bas, en exprimant face à tout le monde ce qui ne va pas chez elle, eh bien, nous allons faire exactement le contraire. Le Baal Lashon Hara, celui qui a pris l'habitude de dire du Lashon Hara, eh bien, au fond, n'est pas quelqu'un vraiment qui aime les autres. C'est quelqu'un peut-être qui pourra faire de la tzedaka, qui pourra faire des dons, mais au plus profond de lui-même, il ne les aime pas. Parce que si tu aimais vraiment l'autre, alors quand tu le vois là-dedans, mais pourquoi tu as besoin d'en parler ? Ça sert à quoi ? Ça ne sert à rien. Au contraire, ça ne va que l'enfoncer. Bien sûr, si l'autre est un tueur à gages et qu'on lui a dit qu'il doit arrêter et qu'il continue, qu'on lui a dit qu'il doit arrêter, qu'il doit continuer, alors parfois, malheureusement, la seule manière, c'est de le dire. Mais souvent, d'ailleurs, on dit, pour que les gens sachent, mais avant, on oublie de dire à la personne « change ». Et si la personne a changé, au fond, pourquoi lui dire ? Quelqu'un aurait volé il y a 20 ans. C'est vrai, mais il a changé peut-être, et souvent, il a totalement changé. Si on l'aime, eh bien, on ne va pas faire ce qui va l'empêcher de construire ou de reconstruire une vie. Alors, voilà au fond quelques petites pistes qui sont quelque part relativement simples, mais que l'on oublie souvent de mettre en place. Et n'oublions pas que nous sommes tous concernés par cette problématique, puisque la Gemara nous dit une minorité de personnes fautent dans le domaine de l'immoralité, une grande majorité dans le vol, ne serait-ce qu'en n'assumant pas nos responsabilités vis-à-vis des autres. Ve kulan et tous, avec Lashon Hara, dans la poussière de Lashon Hara. C'est-à-dire que même si ce n'est pas du vrai Lashon Hara de la médisance, mais on en fait quand même un petit quelque chose. C'est quelque chose qui va être sans doute un des enjeux majeurs de notre génération, surtout lorsque les réseaux sociaux permettent de transporter avec tellement de facilité des paroles qui parfois sont tellement fausses mais qui peuvent détruire. Essayons justement donc de développer ce désir d'apporter aux autres. Et lorsque cette dimension-là sera inscrite profondément à l'intérieur de nous-mêmes, chaque fois que nous verrons quelqu'un qui dysfonctionne, eh bien nous allons réfléchir, mais au fond, comment pourrais-je l'aider à changer ? Comment pourrais-je l'aider à sortir de ce dysfonctionnement ? Comment pourrais-je l'aider à grandir ? Comment pourrais-je l'aider à se voir comme étant quelqu'un qui a un potentiel immense et puis qui peut construire de très belles choses ? Voilà quelques éléments de réflexion. Très simples, sans ridouche, sans nouveauté. Mais vous savez, il faut savoir, je pense, chacune et chacun d'entre nous, régulièrement, se reposer la question des fondamentaux, remettre en place ce qui est nécessaire pour réussir à avancer. Ah, on va se dire « mais moi, ça ne me concerne pas ». Eh bien, il y a un maître qui s'appelait le Imre Emet, le rabbi de Gour, qui, lorsqu'il a reçu le livre du Hafetz Chaim, qui a tellement écrit sur les lois de la médisance, alors que le Imre Emet était connu comme étant quelqu'un qui étudiait énormément et qui était une personne qui faisait très attention à sa bouche, il a écrit à tous ses élèves, il a dit à tous ses élèves, à tous ses chassidim, il a dit « étudiez ce livre ». Il m'a apporté à moi-même énormément de choses. Alors, a fortiori pour nous, sachons mettre en place un travail là-dessus et, à travers cela, recréons le shalom dans le clan d'Israël et Bezrat Hashem dans l'univers.
Rav Eli Lemel, bonsoir, et je fais une promesse, je vais colporter ce que vous venez de dire. Voilà, ça, je pourrais le faire. Merci à vous. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Nous sommes en ligne avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai.
Shalom, Aleichem, Chodesh Tov, Mvorach, Shabbat Shalom, Bracha Vatzlacha, etc. etc.
Chodesh Tov.
Chodesh Yar également. Chodesh Yar, les initiales, Ani Hashem Rofecha, je suis Hashem qui te guérit.
Mais oui, donc, d'ailleurs, on donne notre mission à tous ceux qui ont besoin de. À la Refoua Shlema, de tous ceux qui en ont besoin.
Amen.
Et bien sûr que c'est pour nous un grand plaisir de faire ça. D'ailleurs, c'est sur ce sujet-là que vous voulez intervenir ce soir. À la fois donc Rodesh Tov, qui est Rosh Chodesh, qui est pour le mois d'hier, comme vous venez de le souligner. Puis il se trouve que, voilà, Tazria Metsura parle des dégâts de la parole sur les choses, sur la santé des hommes et des femmes, sur leur maison, sur... des éléments qui sont très concrets. Et alors, il se pose une question. Est-ce que le mauvais usage que l'on peut faire de notre parole amène une punition ? Et donc voilà, notre santé se dégrade, donc les fameux objets, les maisons que je viens d'évoquer se dégradent. Ou est-ce que non ? Il y a un rapport qu'on ne voit pas, mais que expliquent nos chachamim, qui est direct. C'est la conséquence de nos actes, quoi. C'est pas forcément. Alors, expliquez-nous.
Alors, regardez, c'est intéressant parce que là, il faut comme on le fait d'habitude, se référer à l'ivrite, au Lashon HaKodesh, au langage de la Torah. Le mot parole, c'est davar. Quand il est. Ce sont les mêmes lettres, dalet, vet, resh, mais ce sont des lettres qui sont vocalisées par des kamats, par le A. Mais vous pouvez aussi vocaliser ça autrement, avec un tséré et un dégage. Donc vous allez dire déver. Déver, c'est la peste. Et en fait, la parole, c'est une histoire de vocalisation. On dit toujours dalet vavresh, c'est le dibour. Mais ce dibour, ça peut être davar, ça peut être une chose, ou ça peut être déver, ça peut être la peste. La seule différence, c'est la vocalisation. Et donc la seule différence, c'est quoi la vocalisation en hébreu ? C'est le dévoilement de la direction dans laquelle on parle. D'accord ? La manière dont on vocalise un mot nous dévoile le sens dans lequel ce mot chemine et ce vers quoi il tourne nos regards. Et donc, quand on change la vocalisation de davar, chose, à marti davar, j'ai dit quelque chose, comme on dit en français d'ailleurs, j'ai dit quelque chose, et bien à marti dévers, on peut dire aussi j'ai dit la peste, c'est-à-dire que j'ai amené la destruction. Et pourquoi la parole a cette fonction là, d'amener la construction à la destruction, tout simplement parce que c'est une fonction spirituelle. Le jour où Hachem nous a donné la Neshama, la Torah dit que Hachem a mis Ruach Hayim, un esprit de vie, Be'apav, donc dans ses narines, elle a un souffle de vie que Hachem a donné en l'homme, et Ankelos traduit Ruach Mala, c'est un Ruach, c'est un esprit parlant. Et lorsque l'homme parle, il exprime la force de sa Neshama. Ou au contraire, il va exprimer par sa parole, au contraire, la réduction de sa neshama, la réduction de sa portée spirituelle. Quand quelqu'un dit du lashon hara, il dit une mauvaise parole, il réduit l'individu à son regard, à son jugement, à la face extérieure de cette personne. Mais lorsque quelqu'un, par exemple, est melamed zchout, il juge favorablement un individu, il va prendre en charge, c'est qu'à le dire, il va prendre aussi en considération la totalité des aspects de sa personnalité, et donc il va avoir une image beaucoup plus juste. D'accord ? La même chose dans une situation sociale aussi. Vous pouvez réduire votre regard sur un certain jugement et vous pouvez prendre en compte l'ensemble de la situation et vous aboutissez à un dibourg, chakoul, à une parole qui est plus équilibrée. Et donc, effectivement, la parole, c'est le reflet de la neshama, c'est la force spirituelle de l'individu, et cette force-là, elle fait écho à la force, en quelque sorte, d'Hachem. Comment Hachem a créé le monde ? Par la parole. Hachem a créé le monde par la parole. Et la Gemara, dans Yebamot, elle dit « Adam le'amal yulad ». L'homme, il est né pour se donner du mal, se donner de la peine. Dans quoi ? Le'amal pe. Par la bouche. Qu'est-ce qu'il fait ? Toute la journée, il parle. Il prie, il étudie. Ensuite, après, il parle à son patron. Après, il parle à ses copains. Après, il parle à ses employés. Après, il parle à ses clients. Ensuite, après, il parle à sa femme, la femme au mari, les deux aux enfants, les enfants entre eux, les enfants à l'école, le prof à l'école. Tout le monde parle. Le monde est occupé à parler. Mais en parlant, il véhicule une force qui est une force d'origine divine. Maintenant, s'il la transforme en force matérielle et donc en force de destruction, alors effectivement, la parole va détruire. C'est la force spirituelle qui est en elle qui fait que la parole va détruire, ou alors au contraire, qu'elle va construire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans la Torah, on voit que Hachem, lorsque l'individu fait du Lashon Hara, on voit un avertissement sur la maison, sur le vêtement, puis ensuite sur le corps de l'individu. Et à chaque fois, c'est le Kohen. L'individu, il doit venir devant le Kohen pour... faire venir le Kohen pour dire si oui ou non il est tamé, s'il est impur, s'il est plaie, on va dire de lèpre, entre guillemets, qui le frappe, le rendre impur ou pas, c'est le Kohen. Pourquoi c'est le Kohen ? Parce que le Kohen était dans le Beth Amikdash, et le Kohen, c'est un pont. C'est un pont entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'extériorité et l'intériorité, entre le monde de la mondanité, en quelque sorte, et le Beth Amikdash, le temple dans lequel la présence divine était visible. Le Kohen, il avait une fonction qui est une fonction thérapeutique, une fonction prophétique. La fonction d'amener des corbanotes, mais c'était quelqu'un qui pouvait aussi avoir le Ruach HaKodesh. Avant le premier temple, quand on était malade, on allait voir un Kohen, on allait voir un prophète, on allait voir des hommes de Dieu, parce que c'était des ponts entre la parole divine et la parole humaine. Et donc le Kohen, il a un rôle qui est tout à fait fondamental parce que c'est quelqu'un qui va se pencher sur le cas de l'individu et va essayer de comprendre pourquoi cet individu, eh bien, sa maison, ses vêtements ou son corps se sont abîmés parce qu'il a cette fonction et cette capacité. Il a une parole qui est une parole, il véhicule la parole qui est la parole divine et donc il peut renvoyer comme dans un effet miroir l'individu à finalement à la matérialité de sa parole. Et c'est pour ça que c'est le Kohen qui a un rôle fondamental. Alors autre chose qu'il faut dire aussi, il faut se rappeler que Yosef, par exemple, et ça c'est très intéressant, elle va lui parler, la femme de Potiphar, par exemple, dans l'épisode de Yosef, où la femme de Potiphar essaye de séduire Yosef, elle lui parle. Le jour où elle n'arrive plus à lui parler, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va l'attraper par son vêtement, en tentant en quelque sorte de l'emprisonner. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il s'en va, il laisse son vêtement chez elle. Et nos sages nous disent qu'il y a ici une parabole qui concerne le Lashon Hara. Vous savez que Yosef, finalement, disait du Lashon Hara sur ses frères. Et que l'origine de la haine de ses frères, c'est le Lashon Hara de Yosef. Et Yosef va se retrouver en face de quelqu'un qui lui parle. Et Yosef voit, il est en Égypte, qu'il a ce qu'on appelle le Or HaMakif, il a une protection spirituelle de lumière autour de lui. Mais à un moment donné, cette protection, elle va s'effondrer face au fait que la femme de Potiphar, qui représente ici les tentatives de destruction spirituelle, met la main sur ce vêtement, et là, il comprend qu'il est prisonnier d'une force impure, et donc il est obligé de se défaire de ce vêtement et de sortir. Et donc on voit ici que la parole de Yosef sur ses frères, qui va le conduire à l'exil, va le mettre en face de la parole destructrice de cette femme de Potiphar, et va l'obliger à abandonner ses vêtements. Parce qu'effectivement, le vêtement exprime une certaine force de protection. Et selon la manière dont un individu parle, c'est aussi, et c'est assez surprenant, selon la manière dont il se vêtit ou il se dévêtit. On voit que très souvent les gens qui sont très pudiques, qui ont ce sens de la discrétion, sont des gens qui savent s'habiller aussi avec une certaine discrétion. Alors qu'au contraire, les gens qui sont complètement dans le dévoilement permanent, qui racontent tout et tout, n'importe quoi, ont aussi une autre manière de s'habiller et de se faire remarquer. On voit qu'il y a aussi, donc ici, un rapport entre la parole et le vêtement. Donc la paracha Tazria Metzora, c'est une paracha qui nous invite à réfléchir ici sur l'usage de notre parole. On sort de Pessar, c'est la bouche qui parle. On était avec Paro, Péra, la mauvaise bouche, et on a tenté pendant Pessar de réapprendre à parler, de réapprendre à véhiculer le verbe divin, et donc ce que la Torah nous demande et ce que les sages nous enseignent, cette fois-ci de manière sainte, de manière constructive, et donc de manière qui soit pertinente pour la construction de la famille, pour la construction personnelle. Ça a été ça, l'expérience de Pessah. Donc, on débouche sur Tassé Ametsora, qui est une invitation à réfléchir sur la force du verbe, avant qu'on se dirige donc sur le mois de Iyar, vers la préparation au Matan Torah. Et là encore, la Matan Torah, c'est quoi? C'est le Dibour Eloki, c'est la parole d'Hachem qui s'est adressée aux hommes, qui a permis aux hommes d'acquérir une force dans la parole, qui est la force de la Torah. Et donc, on est dans cette trajectoire. Et pendant ce mois-là, par exemple, on va travailler nos midot, on lit Pirkei Avot, Shabbat. Pourquoi? Pour nous apprendre à travailler nos midot, notamment nous apprendre à travailler notre langage, comme disait Rabban Gamliel. Et Gadalti Betochar va conclure avec ça. J'ai grandi parmi les Chachamim. Velo Matsati la gouf, Tov et la Shtika. La seule chose que j'ai trouvé qui était bien pour le corps, pas pour l'âme, pour le corps, c'est le silence. Donc apprendre à gérer sa parole. Voilà. Shabbat Shalom.
Eh bien, on va essayer de commencer par le début et de se dire des bonnes choses, des belles choses. Les paroles peuvent être nourrissantes. Elles ne sont pas forcément destructrices, surtout ce soir. Et donc, on va prendre. Une leçon de ce que vous nous avez dit ce soir à Mandech Habiton. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Chodesh Tov.
Shalom, Chodesh Tov, au revoir.
Et nous sommes en ligne avec Rav Gueh. Bonsoir Rav Gueh, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gueh, vous voulez intervenir sur le Lashon Hara ce soir et nous préciser que le Lashon Hara, qui est quand même une faute très largement pratiquée, en tout cas moi je parle de moi, malheureusement je ne m'en glorifie pas, mais bon. Et vous dites, attention, c'est l'une des fautes les plus graves de la Torah et vous voulez nous expliquer pourquoi.
Oui, tout à fait. Je voulais d'abord expliquer que la paracha de Tazria et Metzora que nous allons lire ce Shabbat parle effectivement de la plaie de la Tsaraat. On appelle ça la lèpre en français. Mais en fait, ce n'est pas une maladie physique. C'est une maladie spirituelle, si on peut dire cela, qui apparaît lorsque, entre autres, c'est pas la seule raison, mais une des raisons principales, c'est lié à la médisance. Donc effectivement, le sujet, c'est sous-jacent de la paracha, c'est la médisance. Et je voulais expliquer en quoi cette faute est si grave pour que Akadosh Baruch Hu Hashem, dans les parachiot de Mazer Metzora, ça s'apparaît d'une façon surnaturelle, on est bien d'accord, c'est pas la nature, c'est métaphysique. Une personne qui dit du mal a sur sa peau donc une sorte de plaie qui apparaît, qui est vue par le Kohen, et qui dans certains cas, donc il est rendu impur, il doit s'isoler à l'extérieur du camp, et chaque fois que quelqu'un s'approche de lui, il lui dit attention, je suis impur, donc restez isolé pendant 7 jours, voire 14 jours. Donc c'est extrêmement rare que Dieu utilise, à dire, une intervention divine évidente pour sanctionner une avéra. D'une façon générale, j'invite tous les auditeurs à lire et à relire un livre très précieux, celui du Chafetz Chaim. Effectivement, cet homme, il n'a jamais été élu rabbin, grand rabbin, Rosh Yeshiva, il n'a jamais eu une position officielle importante. Il vivait dans un petit village, Radin, dans la Biélorussie d'aujourd'hui, la Pologne de l'époque. Et dans sa petite maison très simple, il écrivait des livres. Et ces livres ont véritablement eu un succès absolument incroyable. Et un de ces livres, c'est le Chafetz Chaim, un livre sur les lois de la médisance. Alors pourquoi la médisance, c'est si grave? Il y a beaucoup de raisons que je ne pourrais pas énumérer dans le cadre de cette intervention. Mais je vais en dire une. Et je la tire du livre Shmirat HaLashon, un autre livre écrit par le Chafetz Chaim sur le sujet justement de la médisance. Et dans le Sha'ar HaZechira, chapitre 2, le Rav Chafetz Chaim développe le fait, en fait il cite un Zohar HaKadosh. Un Zohar HaKadosh dans Parashat Pekudé, qui nous dit que, tout simplement, lorsqu'il n'y a pas de Lashon Hara, lorsqu'il n'y a pas de médisance, lorsque le peuple juif est uni, eh bien, même si on fait des graves fautes, de très graves fautes, Dieu, Hachem, ne nous punit pas, n'intervient pas. Alors, je sais que ça peut paraître absolument incroyable, mais il appuie cela, entre autres, sur un Yerushalmi dans PA, chapitre 1, qui dit qu'à l'époque de Achav, le roi Achav, il y avait de l'idolâtrie, à très grande échelle, hein, et ils allaient en guerre, ils partaient en guerre, ils avaient des... et ils revenaient tous indemnes. Pas un seul blessé, pas un seul mort. Aucune victime. Et pourquoi ? Parce qu'à cette époque, les Juifs étaient particulièrement unis. Il n'y avait aucun délateur, aucun médisant. C'était l'union parfaite. Et donc, ils sortaient en guerre et ils revenaient comme ils étaient venus. Voilà ce que nous enseigne... Alors, c'est assez incroyable parce que c'était, la faute est très grave, l'idolâtrie. Alors, il explique le Chassid Haïm les choses d'une façon incroyable. On sait que Hachem nous aime beaucoup. Il aime son peuple. Il aime Israël. Et il ferme la porte à l'accusateur, l'accusateur, mais il ne peut pas toujours laisser la porte fermée. Si parmi les Juifs, il y a des gens qui disent du mal les uns des autres, eh bien ça ouvre la porte, justement, d'être la porte du trône, du Kisé HaKavod, et à ce moment-là, l'accusateur peut venir déposer les dossiers, entre guillemets, contre le peuple juif, peut accuser Israël. Mais si le peuple juif est uni, il ne peut absolument pas accuser Israël. À tel point que Moshe Rabbeinu, au début de Parashat Shemot, nous dit « Achen noda adavar ». Maintenant, dit Moshe, je sais ce qui se passe. Alors, de quoi s'agit-il ? Il y a deux Juifs qui se disputaient. Moshe est intervenu. Et puis, quelqu'un a rapporté à Pharaon, l'un des deux, qu'il avait tué le fameux Égyptien. Donc il a fait la faute de Lashon Hara, il a rapporté un fait qui était accusateur par rapport à Moshe. Moshe a été condamné à mort, il en est sorti vraiment de justesse et par miracle. Mais lorsqu'il entend parler de cela, Moshe dit « Ah, Achem, Noda, Davar ». Je comprends pourquoi les Juifs souffrent autant, pourquoi il y a l'exil en Égypte. Franchement, nous savons tous que les Juifs en Égypte étaient idolâtres, comme l'explique le prophète Yéhézkel. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas de délateur, d'accusateur parmi nous, eh bien Hachem ferme, entre guillemets, ses oreilles, si on peut parler comme ça. Il ne laisse pas entrer l'accusateur. Par contre, si nous accusons les uns les autres, à ce moment-là, il ne peut plus laisser la porte fermée. Mida keneged mida, vous vous accusez les uns les autres, bien moi aussi j'entends vos accusateurs. D'où la gravité extrême de cette faute, qui malheureusement, comme vous l'avez dit, nous frappe presque tous, ou sinon tous. Soit on en parle, soit on l'écoute, et le plus grave c'est aussi de non seulement de l'écouter, mais de croire à ce qu'on nous dit. Il ne faut jamais, jamais croire lorsqu'on vous dit du mal de quelqu'un. Il faut toujours vous dire que ça n'a pas été, c'est pas précis, c'est pas exact, ça n'a pas été bien compris. C'est le béaba d'un juif qui veut respecter les lois de Lashon Hara, qu'on appelle Kabbalah de Lashon Hara. Il faut toujours éviter d'en parler. Je sais que c'est très, très difficile et je ne peux pas vous donner le son parce que moi aussi, je suis pas sûr d'être propre dans ce domaine, loin de là. Mais en tout cas, je vous demande une chose. À l'occasion de la lecture de Tazria Metzora, prenez chacun d'entre vous un engagement, même si c'est qu'une fois par semaine, d'ouvrir le livre Hafetz Chaim. Il a été traduit en français, très bien expliqué, commenté. Il y en a partout dans toutes les librairies, et lire régulièrement. Et si grâce à cette lecture, une fois dans votre vie, vous évitez de dire une médisance, un mot méchant, ça vaudra la peine. Le Rav Israël Salanter disait que ça vaut la peine de faire le moussard tous les jours de sa vie pour éviter une fois de dire la médisance de quelqu'un. Pour vous expliquer la gravité de
ce... Incroyable.
Incroyable. Donc, effectivement, nous sommes tous... En fait, nous sommes en exil aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a eu la haine gratuite à l'époque du Deuxième Temple. Le Rav Israël nous dit la haine gratuite, elle a été induite par la médisance. Donc en fait, nous sommes en exil à cause de la médisance. Donc si nous pouvions nous libérer de cette terrible faute, eh bien le Beit HaMikdash serait tout de suite reconstruit. Et j'en parle aujourd'hui parce que vous savez qu'en Israël, il y a beaucoup de, voilà, on va dire, de haine. Et ça me fait beaucoup de peine. On peut ne pas être d'accord les uns avec les autres, et ce n'est pas le sujet de cette intervention, de donner nos avis là-dessus. Mais ce qu'il faut toujours, c'est de respecter l'autre et ne jamais dire du mal de l'autre. Mais on peut discuter, on est obligé d'être tous d'accord. Mais au contraire, c'est la marloquette, les Shem Shamaim de Hillel et Shammai, elle est très, très. Elle est souhaitée. Mais jamais, jamais de dire du mal de l'autre. Ça, c'est très difficile. C'est notre gros problème malheureusement depuis très longtemps. Si nous avions le mérite, si nous avions la force de nous opposer à cette terrible faute, eh bien, tout simplement, l'histoire se terminerait de la meilleure façon, c'est-à-dire la reconstruction du Beit HaMikdash et le retour à Jérusalem reconstruit très bientôt.
Amen. Rav Guay, puisque vous avez évoqué et la destruction du temple l'histoire, la briote, je vais dire quelque chose concernant Cicéron. Cicéron, qui est bien sûr l'un des plus grands penseurs romains, a écrit sur les Juifs. Et il a écrit, vous n'imaginez pas la solidarité dont ces gens sont capables entre eux. Il a dit, et ils nous mettent en danger. Il faut lutter contre les Juifs en raison de leur solidarité. Et c'est très frappant parce que Cicéron, c'est l'époque des Romains. Donc c'est probablement au moment où on était arrivé au paroxysme de la haine entre nous. Et il y avait toujours ce lien tellement fort que même Cicéron l'a reconnu, au moment où nous, dans nos traditions, on dit mais c'était le pire des moments où on se haïssait entre nous. Et puisque ça a fait la destruction du temple. Alors moi, sous votre direction et sous votre autorité, je voudrais dire un mot de journaliste. J'ai vu de très très rares moments où les Juifs sont allés aussi loin dans la haine les uns contre les autres que depuis le début de cette crise. J'ai même d'ailleurs en fait qu'un seul exemple, c'est l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Même le retrait de Gaza n'a pas provoqué ce que j'entends autour de moi. Et je voudrais vraiment que les gens écoutent ce que vous dites, Rav Guay, et prennent soin de cette crise a déjà 3 mois. C'est le moment de lever le pied, non pas dans ses convictions. Celui qui est contre le projet, il faut qu'il garde ses idées. Celui qui est pour le projet, il défend ses idées. Mais au niveau de cette haine qui empêche certains même de respirer presque à Jérusalem, on me raconte que c'est invivable. Je pense que vous avez ouvert une porte qui est très importante, Rav Guay, et qu'il faut qu'on y entre tous. Parce que on a atteint des sommets, alors nous évidemment, nous vivons loin, mais pour nous tous qui sommes attachés à cette terre, à ce pays, il faut vraiment que ça s'arrête. Je vous cède de nouveau la parole, Rav Guay.
Oui, je voulais justement rebondir, parce que vous parliez des Romains, de l'époque romaine, et de la solidarité. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose d'assez intéressant. C'est que les mêmes textes qui parlent de la haine gratuite nous disent qu'à l'époque du Second Temple, il y avait l'étude de la Torah et Gmilut Hasadim. Les gens étaient généreux. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont très généreux. Très, très généreux. Il y a énormément de solidarité entre nous. Il y a des aides incroyables qui sont données aux plus pauvres, aux plus démunis. Et malgré tout, il y a aussi la médisance. C'est-à-dire que ça a l'air bizarre, parce que ça a l'air contradictoire, mais ça ne l'est pas. On peut être très généreux, être prêt à faire des dons pour la Tzedaka, pour des allodons qui sont incroyables, qui ont lieu tout le temps, et de faire des magnifiques paniers de Pessah, et d'aider les plus démunis de la façon la plus désintéressée, et en même temps, être capable de dire du mal d'autrui, de notre frère juif, sans la moindre problématique. C'est très bizarre, je sais, mais c'est le cas. C'est ce qui s'est passé à l'époque du Second Temple, et c'est ce qui se passe également aujourd'hui.
Alors, Rav Guay nous a lancé un challenge, donc on adore, nous, ce genre de concours sur Radio Shalom. Donc là, voilà, ça va être un petit peu difficile, quoi qu'on peut commander sur Internet. Sinon, dimanche, Voilà, chacun qui peut. Et pourquoi pas faire un cadeau d'ailleurs? Tiens, comme ça on fait les deux. On fait Gmilo, on peut l'offrir à son épouse, à son époux, à son frère, à des gens qu'on aime, on va à un anniversaire. Le livre, moi j'ai eu la chance de le parcourir un peu, il est très agréable à lire ce livre, c'est vraiment une leçon par jour, c'est super agréable. Le livre qui s'appelle Chefetz Chaim, c'est pour ça que ce très grand penseur s'appelle Chefetz Chaim. Les lois de Shmirat HaLashon, les lois de sur la médisance du Chefetz Chaim, on trouve ça partout et sur Amazon et dans les librairies juives. Rav Guay, allez, on suit votre challenge, tous ceux qui peuvent commander ce livre le font. Je sais aussi qu'il y a des groupes WhatsApp, il y a des gens qui font un jour une halakha sur la Shmirat HaLashon. Rav Guay, je vous remercie.
Je peux juste ajouter une chose?
Oui, bien sûr, c'est vous, là. C'est pas moi.
Non, c'est-à-dire, en fait, souvent les gens se découragent parce qu'ils se disent « j'y arriverai jamais à arrêter, à stopper totalement la médisance autour de moi ou moi-même ». Mais il ne faut pas voir les choses comme ça. Chaque fois que l'on retient sa langue, que l'on ferme sa bouche, c'est une victoire. Alors c'est vrai que c'est difficile de se dire « je vais à partir de maintenant ne plus jamais entendre ou dire ». Mais chaque fois que vous vous retenez une fois et d'écouter ou de parler, c'est une très grande victoire et ça vaut la peine.
Allez, le même Chefetz Chaim qui vous dit qu'il y a du havak aussi, c'est-à-dire des fois on peut laisser entendre, soupirer, etc. Et en fait on est en train de dire du mal et on sait très bien ce qu'on fait, lever les yeux au ciel, etc. Rav Guay, vraiment magnifique. On va suivre, allez, c'est notre challenge du jour. On achète le maximum de livres sur du Chefetz Chaim. En plus, c'est un beau livre à avoir dans sa bibliothèque ou à offrir. Et puis on s'y tient. C'est pas seulement de lire un livre. Rav Guay, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Merci beaucoup.
Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à toutes Shabbat Shalom. Shalom leiboy na boy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy mai, Hashem lo yine bayis. Shalom leiboy na boy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy mai.